Bonjour, bonjour. Donc bonjour, bonjour, bonjour.
1, 2, 1, 2, 3.
Il y a de la mousse qui a enlevé.
Oh.
3, 2, 1, c'est parti.
Je ne suis pas un intrus, juste un imprévu.
Singulier au pluriel.
FPP.
Sur FPP 106.3 FM.
Et merde. Voilà, le merde, tu vas peut-être pouvoir le couper. Hein. Bon, tu pourras le mettre comme jingle.
Sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, rfpp.net partout dans le monde pour nous écouter en streaming. Vous êtes à l'écoute de Singulier au pluriel. Aujourd'hui, donc, nous ne recevons pas, mais nous sommes reçus, hein, puisque cette émission est enregistrée à Anigra à Arcueil, et on est avec
Geneviève Grabowski,
avec un I,
plasticienne. Et Violaine Burgard, scénographe.
On travaille en mélangeant, on travaille à deux, comme les jeunes filles qui allaient à la chasse par deux.
Et justement, les jeunes filles qui allaient à la chasse par deux, donc on va en parler.
Voilà. Alors peut-être, ce serait intéressant de raconter comment a commencé cette histoire des jeunes filles russes.
Dont... Pour nous.
Oui. Pour nous deux, et donc ça date de 2009, j'écoutais la radio, j'écoutais France Culture, et Svetlana Alessievitch racontait son livre, parce que c'était la première fois que son livre qu'elle avait écrit déjà, on peut dire une dizaine d'années, était édité en France.
Traduit.
Oui, était traduit en français. Donc elle a lu des extraits, qu'on lira d'ailleurs tout à l'heure. Alors ce livre, il faut donner le titre, ça s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme ». Et elle a lu donc des extraits, des témoignages de femmes qu'elle a retrouvées, qu'elle a recherchées, qu'elle a retrouvées. Ce sont des femmes qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, étaient des adolescentes russes qui se sont engagées sur le front. Et Svetlana Alessievitch, pendant une dizaine d'années, elle a essayé de retrouver le plus grand nombre de ces femmes qui s'étaient engagées sur le front. Et elle leur a demandé de raconter ce qu'elles ont vécu adolescentes. Donc de raconter le vécu de la guerre. Voilà. Donc, moi, j'ai lu le livre ensuite, et donc j'étais bouleversée par ces témoignages, et j'ai proposé à Geneviève de le lire et de commencer un travail ensemble.
Ah oui, Violaine avait commencé tout de suite, avait commencé après sa lecture à travailler sur une petite forme, donner une forme à sa lecture, à ses textes. Et
petite
donc elle
forme
m'avait
théâtrale.
Voilà, petite forme théâtrale. Donc elle m'avait proposé de regarder, d'avoir un regard sur ce qu'elle faisait et même de me mettre à sa place pour voir les gestes, pour pouvoir voir ce qui se passait concrètement. Avoir une vision et l'aider à enfin, pour voir plus loin, elle, pour pouvoir avancer. Et finalement, donc elle a continué à faire sa petite forme et elle m'a proposé de, petit à petit, de lire le livre. Donc, je suis partie avec le livre sur une île grecque, des Cyclades. J'ai commencé le livre, la lecture du livre dans les airs. Et quand je suis revenue, elle m'a proposé de faire une seconde petite forme, ma voilà. propre vision à moi de cette lecture.
Alors, on va parler un peu de ces témoignages parce que c'est quand même très important. C'est ce qui a, dirigé nos recherches ensuite. Donc, Svetlana a demandé à ces femmes, pas de parler de la Grande Guerre, mais de parler de... Elle voulait présenter ces femmes comme en disant que ce sont des femmes ordinaires, ce ne sont pas des héroïnes, mais des femmes ordinaires. Et elle leur a demandé de parler vraiment du quotidien, de ce qu'elles ont vécu pendant la guerre. Et ce qu'on vous propose. On va lire quelques passages et comme ça on pourrait un peu plus. Alors,
aide-moi, petite. Je ne cessais de courir de l'un à l'autre et une fois j'ai trébuché. Je me suis étalée par terre et je me suis endormie aussitôt. Un cri m'a réveillée. Un commandant, tout jeune lieutenant blessé, s'était redressé sur son flanc intact et criait : silence, silence, c'est un ordre. Il avait compris que j'étais à bout de force, alors que tout le monde m'appelait, tout le monde souffrait. Infirmière, infirmière. Je me suis relevée d'un bond et je me suis mise à courir sans savoir où ni pourquoi. C'est alors que j'ai pleuré pour la première fois depuis que j'étais au front.
Nous nous sommes lavés les cheveux avec de la cendre. Il n'y avait pas de savon. Puis avons grimpé sur le poêle où j'ai aussitôt sombré dans un sommeil de plomb. Le lendemain matin, la mère de cette jeune fille nous a préparé une soupe aux choux et confectionné du pain avec du son mélangé à de la pomme de terre. Que ce pain nous a paru bon et cette soupe savoureuse. Nous sommes restés là 4 jours, le temps qu'elle nous remplume. Elle nous servait chaque fois des petites quantités, sinon elle avait peur que nous mourions d'indigestion. Et le 5e jour, elle nous a dit « Partez ».
Et on marchait, marchait, marchait. Nous traversions des champs, quelle récolte c'était. On marchait en piétinant le seigle. Or, la récolte cette année-là était exceptionnelle. Les blés n'avaient jamais été aussi hauts. L'herbe verte, un soleil splendide, et les morts étendus par terre, le sang. Des cadavres d'hommes et de bêtes, des arbres abattus.
Le linge destiné aux femmes n'a fait son apparition que 2 ans peut-être après le début de la guerre. Avant ça, on portait des caleçons d'hommes et des maillots de corps comme eux. Donc, disais-je, nous marchons. On se hâte pour arriver au fleuve où les bacs nous attendent. On arrive au point de passage et juste à ce moment-là, des avions nous attaquent. Un bombardement terrible. Les hommes courent dans tous les sens à la recherche d'un abri. Nous, nous n'entendons même pas les bombes, tant nous sommes pressés d'atteindre le fleuve, de plonger dans l'eau. Et nous y restons tant que les taches jusqu'à ce que les taches soient parties, heureuses. Oui, c'est comme ça. La honte nous effrayait plus que la mort. Et plusieurs filles ont péri ce jour-là, dans l'eau du fleuve, touchés par des éclats. C'était cela aussi, nos vies de femmes à la guerre. Un dernier, oui. Et puis...
C'est avant qu'elle s'enrôle. J'ai appelé ma tante. Je pars au front. À l'autre bout du fil, elle m'a répondu. Rentre vite à la maison. Le déjeuner est déjà froid.
Voilà, donc ça, ce sont des textes, des témoignages qui sont recueillis dans le livre de Svetlana Alexievitch, « La guerre n'a pas un visage de femme ».
Voilà. Et donc, il y a beaucoup de témoignages qui reviennent, les mêmes qui reviennent. Entre autres, elles racontent, quand elles étaient donc adolescentes même, il y en a qui sont parties à 14, 15, 16 ans à la guerre, et pour elles, c'était une conviction. Hein, il fallait absolument partir défendre la patrie, d'autant plus qu'il y avait eu leur père ou leur frère qui était déjà parti. Et elle, elle restait là. Et pour elle, c'était impossible de rester à la maison. Il fallait s'engager. Il fallait absolument défendre la patrie. Et alors, il y a des témoignages qui reviennent régulièrement. C'est qu'elles sont arrivées au bureau de recrutement avec leur petite robe de jeune fille et leur longue natte blonde. Et chaque fois, ces femmes racontent que la première chose qui leur arrivait, c'est qu'on leur coupait la tresse, leurs longs cheveux, et elles devaient quitter donc leur petite robe. Et chaque fois, c'était un serrement de cœur parce qu'elles disaient « Mais maman, j'ai pas pu le donner à maman. Voilà, j'ai pas pu lui laisser ça. » Et ce qu'elle raconte, c'est que c'était pas du tout prévu que les femmes partent à la guerre, donc, enfin, les jeunes filles, et il n'y avait aucun vêtement pour elles. C'est 2 ans après qu'il y a eu des vêtements féminins pour ces jeunes femmes, des vêtements de guerre. Et qu'elles ont dû rafistoler à partir des vêtements des hommes, essayer de les mettre à leur taille, tant bien que peu, et qu'elles avaient des bottes trop grandes, que souvent ça les blessait, qu'elles saignaient, enfin c'était très difficile, mais ça ne les a pas empêchées de combattre, et d'avoir des rôles extrêmement importants, enfin des missions et des fonctions très importantes lors de cette guerre. C'est-à-dire, en très peu de mois, elles apprenaient à être tireurs d'élite, à avoir des très grandes responsabilités. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de ça, mais aussi elle parle des moments de... quand il y avait des moments de repos, la seule chose qu'elles avaient envie de retrouver, c'était un peu de féminité. Et ça passait par la broderie, par la poésie, par du chant, de la danse, qu'elles regardaient la nature, c'est très important, ça revient souvent, enfin les vocations de la nature.
Comme soutien, oui, le regard sur l'extérieur, sur ce qu'il y a autour d'elles, sur ce qu'il y avait autour d'elles. Donc il y a quelque chose de très, très humain, très simple dans leur... Et d'ailleurs, Svetlana Alexievitch, c'est vrai que c'est important aussi, c'est pas seulement les témoignages, c'est tout le travail... de recherche d'enquête et d'analyse de Svetlana Alexievitch dans ce livre qui est passionnant. Parce qu'elle dit bien, c'est les femmes ordinaires qui parlent le mieux de ça.
Et même les femmes simples. Simples. Si, elle parle. Oui, elle parle des femmes ordinaires et que c'est les femmes simples qui parlent le mieux de la guerre et que les intellectuels souvent transforment leurs souvenirs ou leur perception de la guerre.
C'est quand même des témoignages qui ont été recueillis dans les années 90, 40 ans, 45 ans après les fêtes.
Voilà. On parle d'une parole tue, d'un silence. Voilà. Elles ont gardé le silence parce que quand la guerre était finie, il y a eu peut-être 2-3 héroïnes, mais sinon toutes ces autres femmes, elles ont été accueillies, elles ont peut-être été rejetées, accusées d'être des prostituées. Pourquoi une femme qui va à la guerre, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle a dû forcément coucher avec tout le monde? Il y a tout ça, tout ce regard-là après. Sur elles ont été traitées comme des déficientes, puis une femme qui tue, ça va pas.
Et puis une femme qui tue, on peut pas l'épouser, voilà. C'est pas une vraie femme. Donc elles ont été beaucoup rejetées.
Donc elles ont tout gardé en elles, et elles ont malgré tout essayé de faire une vie. Donc c'est ça qui nous touche beaucoup là-dedans aussi, c'est tout ça, cette parole tue et malgré tout tenir. Et puis là, elles se trouvent face à quelqu'un qui veut les écouter, enfin.
Oui, il y a tout ce questionnement dans le livre, et même le titre, La guerre n'a pas un visage de femme. C'est-à-dire que pour entrer dans la guerre, pour devenir combattante, c'est pas évident parce que on n'a pas les vêtements qu'il faut, on n'a pas les chaussures qu'il faut. Mais aussi après, quand on est une femme, quelque part, on perd son visage de femme quand on est à la guerre.
Oui, et après. Après, ça a été vraiment difficile pour ces femmes. Pour certaines, elles ont dû cacher qu'elles avaient combattu. Sinon, elles ne trouvaient pas de mari. Les hommes, beaucoup d'hommes ont rejeté ces femmes qui ont combattu.
Il y a eu beaucoup et les autres femmes aussi, autour d'elles aussi. Toi, tu étais à la guerre, Mais il y a quand même beaucoup de gaieté aussi dans ces témoignages. C'était des jeunes filles, donc il y a beaucoup d'humour dans leur façon. Alors, il y en a aussi, ça ressort aussi. Il y a certaines filles qui ont énorme. Celle qui transforme son sac en jupe. Et parfois, il y a de la provocation aussi vis-à-vis de l'ordre. Non, il y a des choses qui ressortent comme ça, je trouve, qui sont très. Oui, parce que c'était des jeunes filles, il y a une vivacité, quoi. Voilà.
Oui, et il y a une chose aussi dedans, qui moi m'a aussi, je dirais pas surpris, mais qui m'a permis de mieux comprendre certaines choses concernant la Russie soviétique, la période soviétique et cette période de la guerre. C'est cette solidarité absolument incroyable où on fait corps, finalement. Quand on lit ça, on a l'impression que le groupe ne fait qu'un. Et on se bat contre les nazis, contre les fascistes, contre le fascisme, même s'il y a tout le monde n'est pas forcément stalinien.
Oui. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, on fait corps, mais chacune raconte à sa manière la première expérience de la mort. Du blessé, que l'ennemi, c'est pas forcément ça pose question, parce qu'elle se retrouve face à des jeunes du même âge, des jeunes gens, des jeunes Allemands du même âge, et pour elles, elles sont troublées, et elles se posent la question de qu'est-ce que ça veut dire haïr, tuer quelqu'un qui est un être humain, qui est vivant, qui est en face. Donc tout ça n'a pas.
Il y a tout cette question-là. Comment on passe de l'autre côté aussi, parce qu'elles sont passées de l'autre côté en fait.
Vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue ou rfpp.net en streaming pour vous écouter partout dans le monde. Et nous sommes toujours en compagnie de Violaine Burgard et Geneviève Grabowski qui nous parlent des jeunes filles russes, événements, expositions, installations qui se déroulent depuis samedi 23 mars et jusqu'au samedi 13 avril à Anikra, à Arcueil.
On avait envie de parler de notre parcours, donc qui, maintenant ça va faire...
On est à la troisième étape.
Oui, troisième étape, donc sur 3-4 ans. Voilà, on n'avait pas envie, enfin moi j'avais pas envie de faire, reconstituer l'histoire, que ça soit quelque chose d'historique. Hein. Ce qui m'intéressait, enfin, et puis donc j'ai demandé à Geneviève de partager cette expérience, c'est que de plutôt comment ces témoignages nous traversent et comment à travers le théâtre, les arts plastiques, on fait passer ces ressentis, ces émotions.
Et il y a quelque chose d'important aussi moi, il y avait le questionnement, mais pourquoi c'est un livre, c'est des témoignages, pourquoi moi je vais faire quelque chose avec ça? Hein, comment on peut se permettre de faire quelque chose avec ça? Et moi, ce qui m'a aidé à y aller, parce qu'il fallait y aller, il a fallu un temps de maturation après la lecture, et ce qui m'a aidé à y aller, c'est qu'une d'entre elles dit « il faudrait un poète pour dire ça ». Et en même temps, on se dit « il n'y a pas besoin de poète, elles le disent tellement bien ». Mais voilà, il faudrait quelque chose pour le raconter autrement, parce que les mots, des fois, c'est trop dur. Donc je pense que ça nous a permis aussi de passer ce pas et pour faire quelque chose.
Évidemment, il y a eu une envie de faire partager, hein, de faire connaître ces témoignages, parce qu'on s'est rendu compte que très peu de gens connaissaient Svetlana Alexievitch et connaissaient ces témoignages.
Cette histoire-là,
parce que, on s'est rendu compte que très peu de gens savaient que des femmes s'étaient engagées, des femmes russes s'étaient engagées sur le front, et ces jeunes filles. Donc, une envie de faire partager. Je pense qu'après, il y a ça fait écho pour des raisons personnelles, mais bon. Donc cette envie de le transcrire sous une forme plastique, et donc on a commencé par des recherches. Et entre autres, dans l'atelier de Geneviève, on a tout simplement commencé à se bander des parties du corps et à projeter
une image,
des
images qu'on avait, des diapos.
Voilà. Et ensuite, ces images, on a fait des photos, on s'est photographié dans ces images projetées avec ces bandages. Ensuite, on a fait des installations à l'extérieur, dans la campagne, dans la nature, toujours avec ces histoires de ces jeunes filles qui nous...
Parce que le bandage aussi, c'était une façon, ce qu'on s'était dit, c'est une façon aussi de commencer à rentrer là-dedans, un peu masqué. C'est-à-dire se bander le bras, c'est dur. Et c'est vrai, c'est un poids assez lourd, et c'était une façon pour nous de passer cette frontière et rentrer dans une image, comme rentrer dans une lumière, rentrer dans un feu.
Oui.
Et jouer, parce qu'on a joué. C'est quelque chose de un peu lourd quand même. Mais
oui.
Mais tout de suite, on a vu apparaître des images, des sensations. Rentrer dans une image, ça provoque des sensations, puis des effets. Donc on a photographié tout ça, on a regardé ça.
Oui, puis c'était lié au camouflage, puisqu'elle devait se camoufler, aussi bien dans des vêtements, ses vêtements, que se camoufler pour se cacher.
Se fondre dans quelque chose, dans la nature.
Se fondre, et puis il y a souvent l'évocation de la forêt, qui est très importante. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et donc ces installations ensuite à l'extérieur, puisque donc elles sont souvent à ramper, on parle de la neige qu'ils font, elles rampent dans la neige. Il y a souvent ces évocations.
Elles s'essuient avec l'herbe verte.
Voilà. Et donc, à l'issue de ces recherches, donc on avait toutes ces photos et on a commencé à faire une exposition à la ferme, c'est la ferme d'Elancourt.
Du Mousseau, pardon, oui, la ferme du Mousseau à Elancourt, où on a été, je ne sais plus combien, mais sur 3 mois en résidence là-bas pour faire nos recherches et avec, pour présenter ensuite notre travail. Donc, c'est vrai que là, on a été dans des conditions très, très fortes, parce qu'on a eu la neige, on a eu, on était en automne et hiver, donc on a eu, parce que comme je disais tout à l'heure, Violaine, quand on était de première étape de recherche dans la nature, c'était important de rentrer dans la nature, d'affronter les conditions un peu climatiques, même là, ça allait. Mais en deuxième étape, on a eu la neige, on avait envie de faire des choses encore dans la nature, mais finalement les choses se sont, on a continué à faire des choses un petit peu. Et donc tout ce travail de recherche, on l'a mis en forme, en installation, dans la galerie du lieu.
On a fait des installations aussi, où on a, avec des matériaux, des vêtements qu'on a...
manipuler, transformer. Oui. On a cherché à donner à des sensations de cette impression de gel, justement. On a fait des recherches là-dessus.
Et même avec la photographie aussi.
Oui, oui, parce qu'on n'a pas dit, mais tous les éléments qu'on a utilisés, les matériaux qu'on a utilisés, sortent du livre. Le vêtement, le tissu, la gaze, le végétal. La couture. Hélène tout à l'heure parlait d'un témoignage qui revient régulièrement et qui est le point de départ pour ces jeunes filles. C'est une fois qu'elles se sont engagées, on leur a coupé la tresse. Donc on a commencé à récolter des vêtements qui reviennent régulièrement dans le livre. Et on a tressé une tresse de vêtements. Donc pour nous, c'est une image très symbolique qui évoque aussi tous les corps de ces femmes avec des vêtements plutôt... De tous les jours, qu'elles avaient pu porter avant la guerre, et une tresse qui
faisait 10 mètres.
Et on a oublié de dire, mais on a travaillé aussi avec des jeunes filles, on a fait des stages, des rencontres sur le lieu pendant le temps de résidence.
Mm-hmm.
Et alors, ce qui a été frappant, c'est qu'on a travaillé entre autres avec des danseuses, et des danseuses, des jeunes filles qui avaient 16 ans, et elles ont lu quelques passages, elles ont lu quelques témoignages et elles se sont appropriées ces témoignages et elles nous ont proposé une danse à partir de ces témoignages. Mais ce qui était le plus touchant pour moi, c'est que chaque fois qu'on a fait découvrir ou qu'on a lu avec les jeunes, on s'est rendu compte que ça les touchait terriblement. Moi, redoutais toujours que ça soit vécu comme quelque chose de passé, une histoire ancienne qui ne les intéresserait pas. Et au contraire, elles étaient, chaque fois, les jeunes ont été très bouleversés. Parce que raconter ces femmes, quoi.
Déjà parce que elles s'identifiaient. C'était des jeunes filles de leur âge. Et puis finalement, on croit toujours que les choses peuvent faire peur aux enfants, aux jeunes, mais non, enfin, ils sont capables d'entendre des choses très fortes, crues, et d'être confrontés à la réalité. Et vraiment, ça a été très fort ce qu'elles ont fait avec. À partir des témoignages. Et puis, certaines fois, on voit comment elles dévorent ensuite le livre. Et leur proposition de chorégraphie a été vraiment bouleversante aussi.
Oui.
Et elles ont dansé donc, le jour de l'ouverture, du vernissage. Elles ont dansé dans la cour. Il faisait froid. Elles étaient en manteau, sous la pluie. Elles étaient magnifiques. Donc, notre installation, on l'a conçue comme un cheminement. On a voulu que tout notre cheminement de recherche soit visible, soit là, et en parallèle avec le cheminement de Svetlana Alexievitch et celui des jeunes filles. Puisqu'en fait, on l'a découpé un petit peu en étapes. Oui. La tresse, avant la guerre, l'engagement, après, pendant et après. Oui. Et parce que c'est la question qui est très forte aussi, qu'est-ce qu'elles sont devenues après. Mmh. Et l'après, c'est aussi dans nos petites formes. Donc dans l'exposition, on jouait les deux petites formes dans l'exposition. Donc c'est vraiment un tout, ça se répond, ça se complète.
Alors peut-être qu'on peut parler d'Anis Gras. Mmh. Première exposition, on s'est rendu compte que ça résonnait beaucoup, que le public, enfin les gens qui sont venus étaient extrêmement intéressés, touchés, donc ça nous a donné envie de le présenter ailleurs.
Et surtout de continuer notre recherche.
Donc là, on a rencontré Catherine Lecomte. Maintenant, ça fait deux ans et demi. On lui a parlé du projet, de cette exposition.
Et Catherine Lecomte, c'est
la directrice d'Anis Gras. Et ce qu'elle nous a dit, alors elle a accepté, et ce qu'elle nous a dit un peu plus tard, c'est qu'elle a senti tellement chez nous d'émotion quand on en parlait, qu'elle nous a donné carte blanche et elle nous a ouvert les portes de ses ateliers pour continuer notre recherche et faire une proposition en exposant. Et en présentant les petites formes. Donc, c'est ce qu'on a fait il y a à peu près un an.
Voilà. Alors, juste préciser quand même que Anis Gras, c'est lieu de l'autre. Hein. C'est une ancienne distillerie d'Anisette qui est maintenant reconvertie en lieu d'exposition, en lieu de spectacle, en lieu artistique, et surtout en lieu de recherche. Et beaucoup d'artistes, dont vous, sont en résidence à Anis Gras.
Théâtre, musique. Et art plastique, peut-être ça s'ouvre beaucoup plus art plastique maintenant. Ouais.
Voilà, donc il y a un an, vous arrivez en résidence à Anis Gras.
Voilà, alors pareil que pour Elancourt, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs périodes, on demande à être sur les lieux plusieurs périodes dans l'année, hein, ça peut être une semaine, 15 jours, où là, il y a des recherches. Dans les lieux enfermés, là, on peut pas dire qu'on a travaillé à l'extérieur. Et peut-être qu'on a cherché à... Alors, la proposition de la deuxième étape, c'est qu'autant à Elancourt, tout était... C'est-à-dire les petites formes, toutes les étapes étaient dans le même lieu. Et là, on a commencé à diviser les lieux. On avait trois espaces. La serre pour les petites formes, un lieu d'exposition qui était plus un espace de documentation. Et le troisième espace, une installation.
Alors, il se trouvait qu'on avait la possibilité d'avoir... Il y a beaucoup de lieux ici. Et on a eu la possibilité d'avoir trois lieux. Donc c'est ça qui nous a amené aussi à se dire on va faire une salle de documentation puisque la salle qu'on a pu avoir devait être destinée à une salle de documentation. Et nous, on a des carnets pour nous sont les archives. Comme Svetlana Alexievitch qui a recueilli des bandes, des carnets, qui a rempli des carnets. On a fait aussi des carnets à partir de nos recherches, en croisant avec les témoignages. Donc on a des archives, archives à partir des témoignages, à partir de nos recherches et quelques photos d'archives réelles de ces jeunes filles. Et donc ça paraît une évidence d'occuper cette salle de documentation en salle d'archives. Puisqu'à la précédente exposition, on avait fait un mur d'archives. Et on avait posé les carnets par terre, ils se mélangeaient aux installations, aux photos, et donc on pouvait faire des croisements. Là, on a voulu plus séparer les choses, donc on avait vraiment la salle de documentation, mais il y avait la tresse qui se trouvait là, il y avait quelques photos, c'était encore un peu... Il y avait encore des choses, des objets aussi dedans.
Et donc il y avait une armoire, et dans cette armoire... On avait fait des piles, il y avait des piles de feuillets sur lesquels on avait réécrit les témoignages de ces jeunes filles. Et on avait choisi des thèmes autour du vêtement, autour de l'amour, autour de... Voilà, on a différents thèmes. Et dans cet armoire aussi, on avait posé des objets qui pouvaient
renvoyer à des...
Alors, comment dire, soit des traces de leurs vêtements, des traces de...
Des épingles.
De la dentelle. Il y avait...
Des cheveux.
Des cheveux, oui.
Des choses très légères, parce que c'est...
Et à la fois très
voilà,
féminine.
Et voilà.
Et à côté... Donc, la salle suivante, c'était une installation. Et là, alors le parti pris était radicalement différent de ce qu'on avait proposé à Elancourt. C'était d'envahir la salle de bandes de gaz. Puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages, c'est-à-dire la gaz pour penser, le manque de gaz. Donc on devait déchirer les vêtements pour faire de la gaz.
Et elles avaient peu de vêtements, justement, pour bander un blessé. Donc le manque. Et c'est vrai que cette idée de manque de gaz, on a voulu justement remplir.
Du coup, envahir. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y ait, il y a cette notion d'accumulation, de répétition. Du coup, c'est quelque chose aussi qu'on a voulu
montrer,
donner cette sensation de quelque chose où il y avait l'accumulation et puis quelque chose aussi d'oppressant. Parce que toutes ces bandes de gaz qui étaient suspendues, qui venaient du plafond, et c'était aussi à la fois l'évocation de la forêt, puisqu'on pouvait circuler dans ces bandes, et il y avait des petits bouts de texte qui étaient cousus sur ces bandes ou à l'intérieur de ces bandes, parce que c'est aussi des secrets, des choses qu'elles ont écrites elles aussi, et qui pouvait être caché dans le vêtement.
Parce qu'elle parle aussi beaucoup des tracts cachés, des lettres cachées, de passer des messages cousus dans les vêtements. Donc messages, certains étaient très lisibles, d'autres étaient cachés, roulés.
Et des souvenirs enfouis.
Voilà, et c'était pour parler de ça, ces souvenirs enfouis, les blessures, et aussi pour inciter à aller voir les choses dans le détail. Parce que c'est vrai que notre travail aussi, c'est y a cette idée aussi de voir quelque chose dans son ensemble et puis de rentrer dans le détail, de se baisser pour lire, pour chercher quelque chose, pour comprendre.
Voilà. Et alors,
prendre le temps et chercher.
Alors il y a aussi une chose qui est très importante dans notre installation, c'est que donc on a imprimé des témoignages, des bribes de témoignages sur du papier calque, en noir. L'écriture était en noir sur du papier calque, et tout autour de la pièce, on a fait une bande blanche. Sur lequel reposaient ces papiers calques. Donc c'était aussi évoquer la glace, la neige, le froid. Et ça incitait le public qui rentrait dans cet espace à se baisser et pour lire ces témoignages. Voilà, donc ça obligeait le spectateur, le public à faire un effort, à rentrer dans cette lecture. C'était pas donné comme quelque chose d'évident, mais il fallait faire un effort, il fallait s'impliquer. Et le fait aussi de se pencher, de se plier, ça a obligé aussi de rentrer peut-être, d'avoir un rapport intime avec ces textes. Voilà.
Et ça, et dans surtout le pourtour aussi, ça incitait aussi à faire un parcours aussi. Soit on faisait le tour, on pouvait rentrer à l'intérieur, Et puis il y avait un endroit un peu plus isolé, on avait reconstitué, toujours avec ces bandes, les bandes de gaz, et puis qui devenaient des bandes de draps, fait à faire avec ce qu'on a. Et on avait reformé un peu une cabane qui représentait un petit peu la maison des femmes maintenant. Donc le troisième volet, on a demandé à avoir deux salles seulement. Hein Mais deux grandes salles qui résonnent. Comme on a deux salles, on a renforcé une salle sur la salle des archives. Mais dans cette salle des archives, comme on présente donc toujours nos deux petites formes, on présente ces deux petites formes dans la salle des archives. Et l'autre salle, qui était un peu le pendant, comme la salle des bandages, qui est la salle où il n'y a plus de texte, peut-être, et...
Oui,
et des vêtements.
Oui. Voilà, on a demandé à Catherine, donc le comte, et elle nous l'a proposé volontiers de faire une exposition, donc un an plus tard, et nous le même sujet, mais par contre nous on voulait pas exposer les mêmes choses. On avait envie de continuer nos recherches et de faire une autre proposition. Et on s'est rendu compte donc avec Geneviève que là cette fois-ci les témoignages, on était tellement imprégnés de ces témoignages qu'on avait besoin cette fois-ci de plus les voir, les lire les voir dans l'installation, mais sans détacher.
Voilà, on voulait se détacher des textes parce qu'ils sont là, ils sont en nous en fait, et on voulait se détacher de ça, et on parle aussi de la parole dite et la parole tue toujours.
Et donc là, peut-être la proposition, mais il faut venir la voir, c'est peut-être, ça parle de ça, enfin ça raconte ça, il y a beaucoup de silence dans notre installation, beaucoup, beaucoup de silence et du vide, il y a aussi du vide.
Et il y a beaucoup de, ça résonne beaucoup avec... avec la vie autour de nous. Et donc dans cette installation-là, c'est vrai que le livre est là, quand même, il est là, mais on ouvre vers d'autres choses aussi.
Oui. Et qu'on a commencé ces ateliers
avec d'autres jeunes filles.
Oui.
Donc du lycée professionnel Val-de-Bièvre à Gentilly, que je connais bien. Mmh. Puisque, je ne fais pas que de la radio et ces jeunes filles sont aussi mes élèves. Mmh. Vous avez mené un atelier où on reprend tout ce qui a été dit là, mais avec ces jeunes filles qui sont en seconde année de CAP, métier du pressing.
Voilà.
Et dans le vêtement, donc.
Oui, dans le vêtement. Donc, on trouvait que c'était déjà vraiment intéressant d'être en contact avec ces jeunes filles qui ont un rapport avec le vêtement. Et alors, moi, ça me touche beaucoup parce que dans ma petite forme, dans le théâtral, j'évoque une blanchisseuse. Je plie les draps. À un moment donné, je devais les repasser, puis voilà, je les repasse pas avec un fer, mais je les repasse avec mes mains et je les plie. Et il y a ce rituel pendant longtemps, enfin dans ma petite forme. Donc ça me touchait beaucoup d'être avec ces jeunes filles qui sont en étude pressing, enfin voilà.
Voilà, et qu'on va peut-être écouter tout de suite, qui vont nous dire ce qu'elles en pensent.
Oui. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 18 ans, je suis au lycée professionnel à Gentilly, Val-de-Bièvre, en deuxième année de CAP métier du pressing. Et le projet qu'on est en train de faire, j'aime bien, parce que j'apprends plein de choses avec Geneviève, Violaine et les profs. Dans ce projet, on fait de la couture, on coud... des journaux dans les vêtements, ce qu'on veut en fait. Et on a fait des tresses aussi, j'ai fait des tresses de vêtements.
Et par d'où ce projet ?
d'un livre qui parle de la guerre. La guerre n'a pas un visage de femme. Bonjour mademoiselle.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous?
Crispel.
Santige.
Je m'appelle Aïssatou.
Tania.
Je m'appelle Marie.
Zoraya. Jugula.
Bintou. Vous avez quel âge?
J'ai 18 ans.
J'ai 19 ans.
J'ai 20 ans.
Vous venez de quel lycée?
Lycée professionnel de Vadébière, Gentilly.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le livre?
Personnellement, le livre, il ne m'a pas vraiment plu.
Oui, ça m'a plu.
Non, pas du tout. Ça me fait la peine de voir les femmes, comment elles ont souffert au moment de la guerre.
Mm-hmm.
Donc là, ça me fait
pitié. Donc si je comprends bien, vous n'aimez pas ce livre parce que voilà, vous n'aimez pas trop les trucs de la guerre.
Les tresses qu'on a fait, c'est parce qu'au moment de la guerre, les femmes ils avaient des cheveux longs. Et c'était très difficile de laver leurs cheveux. C'est pour cela qu'ils ont coupé leurs cheveux. Ben, c'est pour cela qu'on a fait les tresses. Les vêtements qu'on a coudre, c'est pour montrer comment ils se protégeaient pour le froid.
Ça m'a beaucoup touchée parce qu'il y a un passage qui m'a touchée. Une femme qui a noyé son enfant dans l'eau parce qu'il voulait s'y cacher. Il y avait des militaires, il y avait des soldats qui voulaient lui les attraper. Donc elle a noyé son enfant dans l'eau pour pas se faire réparer par les soldats.
C'est la page 48. Je regardais une jupe ou une robe avec horreur, car au front, nous étions tout le temps en pantalon. On le lavait le soir, on le plaçait sous le matelas, on se couchait et le matin, on pouvait dire qu'il était repassé. Même s'il n'était pas tout à fait sec, s'il gelait, il se couvrait d'une croûte de glace. Comment réapprendre à porter la jupe?
Ce que j'ai emporté pour aller au front, je pense que j'essaierai vite de revenir. J'ai pris une jupe, ma préférée, des paires de chaussettes, et un paire d'escarpins.
Stage. 4 après la période de quarantaine,
l'adjudant chef
nous a apporté nos uniformes et notre équipement de soldat, capote et calot, vareuse, jupe, en guise
de lingerie, ça veut dire à la place.
Nous avons reçu deux chemises en toile de coton coupées pour hommes, des bas à la place des portiakis et de lourdes bottines américaines ferrées au talon et au bout. Dans ma compagnie, j'étais la plus petite. Je mesurais 1m53 et chaussée du 35. Naturellement,
l'industrie militaire
ne confectionnait pas d'une forme de taille aussi ridicule, et l'Amérique ne nous en livrait pas davantage. J'ai eu droit à la pointure 43.
Thank you.
Donc et ça s'est passé comment le travail avec et ces jeunes filles, hein, parce que ça fait le projet donc d'un dispositif
de classe à Pâques.
Une classe à Pâques, voilà, c'est une classe, c'est un projet artistique et culturel. Comment ça s'est passé pour vous ?
Eh bien, toujours, c'est un moment d'émotion forte, enfin un moment fort parce que je d'abord, moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'elles aient lu le livre et que tous les adultes qui les ont entourés les ont incités à lire ce livre. Donc, pour nous, c'était formidable parce que quand on les a rencontrés, elles connaissaient déjà, elles en avaient lu quelques-uns, donc c'était pas l'inconnu. Donc, très vite, on est rentré dans le sujet. Et ce qui aussi était émouvant, c'est qu'elles ont chacune a pu parler de son ressenti, de ce qu'elles avaient, ce qui les avait marqués. Et puis, chaque fois aussi, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt à lire ces témoignages.
Et pourtant, c'est des jeunes filles qui ont un peu de mal à lire.
C'est très étonnant.
Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'elles lisent.
Ça a été même pour moi quelque chose de très étonnant, puisqu'au départ, je me suis dit, mais bon, voilà. Et finalement, ça a bien pris. Même si beaucoup ont aimé le livre, d'autres n'ont pas aimé du tout. Ils n'ont pas aimé du tout parce que c'est un livre qui est quand même très dur, qui raconte des histoires très dures, et on entend pourquoi ils n'ont pas aimé. Mais ça a été un moment aussi très intéressant, et moi, pour la découverte de mes élèves, que je croyais un petit peu connaître. Et
moi, j'étais aussi surprise dans la façon dont elles se sont emparées des propositions plastiques. Ça s'est fait tout seul. C'est vrai. Tu étais là.
Oui, mais c'était une évidence.
Voilà, elles ont lu des textes, on en a parlé dans une première séance, on a pris du temps. C'est ça aussi qui est important, c'est prendre le temps de lire, d'échanger. Avec Violaine, on avait lu des textes, après, pour les amener finalement à lire elles aussi. Et elles sont mises à lire, à chercher les passages qui les avaient passionnées. Une a passé la séance à chercher le passage, elle a trouvé, elle a lu.
Sur le cheval.
Donc c'était vraiment très très émouvant. Et elles étaient passionnées, quoi. Et au moment de... Je leur ai proposé de prendre un vêtement et de travailler l'intérieur du vêtement, soit seul, soit à deux. Et il y avait des témoignages qui étaient là, j'avais emmené des choses qu'on avait et qu'on utilise nous. Je ne pensais pas introduire les témoignages dans les vêtements, mais voilà, c'était là. Certaines en ont pris. Il y avait du journal, elle a pris du journal. Et elles ont fait une proposition, enfin quelque chose de très fort, quoi, dans ce vêtement, pour parler de l'intérieur, des blessures intérieures, ou en y associant des images de journaux aussi. Enfin, il y a eu des analogies très fortes.
Et par exemple, sur un des vêtements, à l'intérieur, c'est dramatique, et à l'extérieur, il y a Charlie Chaplin.
Voilà.
Charlie Chaplin, Charlot, pourquoi ? Parce qu'il a parlé de la guerre et qu'il faut bien rigoler quand même.
Voilà, et elles ont raconté ça, elles l'ont dit, elles ont bien vu.
Et ça n'était pas du tout...
C'était pas gratuit, non.
C'était pas
tout,
gratuit.
Tout, dans chaque réalisation, rien n'a l'air gratuit. Moi, ça m'a surpris vraiment. Et d'une façon comme ça, d'un coup.
Rien n'est gratuit.
Non.
Rien n'est gratuit. Donc ça, on dira tout à l'heure qu'on pourra voir donc les réalisations et la petite installation des élèves du lycée professionnel Val-de-Bièvre au lycée. Ce sera les journées portes ouvertes, je crois que ce sera le 19 et le 20 avril au lycée Val-de-Bièvre, c'est 15-17 rue d'Arcueil, mais on va à Gentilly, mais on va quand même parler de ce qu'on va voir pour vous, donc le programme, parce qu'il y a tout un programme.
Oui, parce que donc pour ce troisième volet, on a eu envie aussi d'avoir d'inviter des... On avait fait une rencontre sur le lieu déjà, de Manon Arroy, qui est artiste plasticienne, qui est en résidence aussi sur le lieu. Elle avait vu notre installation, donc la seconde étape à Niskra. La salle des bandages, parce qu'on a parlé tout à l'heure. Et elle avait été très, très, très touchée par ce travail. On a un peu discuté. Et comme elle est encore en résidence ici, c'était une évidence de l'inviter à faire quelque chose. Donc, elle va présenter une performance donc, le jour de l'ouverture.
Le 23 mars.
Voilà, donc elle est à côté, dans l'endroit où on était, nous, l'année précédente, dans la serre. Et on a eu envie d'inviter une danseuse, Marguerite Papazoglou. Je parlais des Cyclades, on se retrouvait avec une grecque maintenant. Donc elle va faire une proposition semi-impro de danse dans l'installation. Voilà.
Ensuite, le 9 avril, on va projeter le film Communalka de Françoise Huguier. Françoise Huguier, qui est une photographe qui a beaucoup voyagé. Et ça, là, elle a réalisé un film sur la vie communautaire dans les appartements russes. Les appartements collectifs, où elle a filmé comme ça plusieurs personnes qui vivent dans un appartement collectif. Et donc, on lui a proposé de venir ensuite, d'échanger avec nous, de parler de son expérience. Mais bon, il y a ce film, mais il y a aussi les livres, ces photographies et des livres qui ont été source d'inspiration, enfin on peut dire, dans nos installations. Donc pour nous, c'est quelqu'un qui est important. Et à l'issue de cette projection, il y aura un repas russe, enfin c'est un prétexte un peu pour se retrouver tous et échanger sur le film, sur l'exposition, sur les... voilà, et puis la vie en résidence à Anigra.
Voilà. Et donc Anigra, on va quand même rappeler l'adresse, hein, c'est au métro, au RER La Place.
La Place.
La Place, oui. Et c'est 55 avenue La Place à Arcueil.
Voilà.
Voilà.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis. Et là, donc, je rappelle, on était avec Geneviève et Violaine.
Et Crabourgard. Merci beaucoup.
Merci. Et il est temps maintenant de retrouver au fond près du radiateur. Et nous allons nous quitter en écoutant la prière punk anti-Poutine des Poissonniers.
Чорний ряд, золоті вагони, всі прихожані ползуть на поклони, призрак свободи на небеса.
І правда, правда, Сибірка дала!
Глибоко губи, глони світой, вікон протестуючих світовий конвой, та ми сидять, що мене скорбить!
Женщина мустра, жайте любіт!
Школу к тебе идет проповедник.
Иди на урок, принеси ему денег.
Подряд гудяй, верит в Путина, лучшему в Бога, сюда верил. Поезд тело не заменит митингом.
Ты протеста с нами, представь его, Мария.
Прогони!